Comment gérer l'hydratation sur une course comme un marathon? C'est une question que vous êtes beaucoup à vous poser et qui n'est pas simple et qui stresse aussi pas mal d'entre vous. Et beaucoup d'entre vous se demandent s'il faut partir avec un sac d'hydratation, un sac de trail, le fameux Camelback. Alors dans cette capsule, je voudrais vous donner quelques pistes pour vous aider à faire le choix. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42. Et dans ce podcast, je m'intéresse principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Dans ce podcast, je parle à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive dans le but que nous apprenions tous comment mieux manger au quotidien pour nous sentir mieux, bouger mieux, réussir nos défis et devenir champion, championne du monde de notre monde. Et vous le savez, désormais aussi, j'ajoute des capsules pour répondre à vos questions. Alors ces capsules, pour le moment, je les fais seul et petit à petit, en fait, je vais avoir des invités pour répondre à des questions très précises, vraiment sur un sujet très précis. Donc c'est plus court, c'est plus condensé. C'est vraiment sur un point qui vous pose un problème. Et ce point qui pose problème cette semaine, c'est celui de l'hydratation et notamment l'hydratation sur marathon. Et une question primordiale, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un sac? Est-ce qu'on doit se baser sur les ravitaillements de la course? C'est une grande question qui anime beaucoup d'entre vous. Je le dis, j'ai fait une publication sur Instagram sur le marathon. J'ai fait ça il y a 2-3 jours. Et j'ai eu plusieurs retours sur l'alimentation et notamment, surtout, sur l'hydratation. Et Sophie me dit par exemple, je suis super entraînée, elle veut faire le marathon en 4 heures environ, mais l'aspect ravitaillement me gâche le plaisir. J'ai peur que sur la distance, ça ne tienne pas, de regretter la stratégie de prendre l'eau des ravitaux plutôt que d'avoir un sac. Et d'ailleurs, cette question du sac d'hydratation revient effectivement très souvent, car certains font ce choix, et puis d'autres ne le comprennent pas. Et cela donne parfois quelques discussions animées. Certains se moquent même de ceux qui prennent leur sac de trail pour courir un marathon. Alors, qu'en est-il? Bon, déjà, je dois le dire, je n'ai pas la réponse dans des anciens épisodes. En fait, j'ai regardé un petit peu les anciens épisodes que j'avais pu faire. Je n'ai pas la réponse parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu plusieurs marathoniens élites, Méline Rollin, Félix Bourg, Florent Carvalho ou encore Johan Koval sur Kilomètre 42. Mais en fait, ce sont des cas spéciaux. Bon, déjà, ils sont très rapides, sont des élites, des pros, des semi-pros. Ils ont un sas dédié, ils courent beaucoup plus vite que tout le monde. Quand on regarde le temps, en fait, ils font partie du tout petit pourcentage, d'un tout petit pourcentage. Et puis, le fait qu'ils soient dans un sas dédié, et en fait, ils ont leur propre bidon qu'ils peuvent poser sur des tables. Donc, le rituel, Méline Rollin l'avait expliqué par exemple, Félix Bourg aussi, c'est qu'en fait, ils préparent la veille tout leur bidon. Et ils vont les poser, ou leurs entraîneurs vont les poser sur toutes les tables de ravitaillement. Et donc, en fait, ils ont leur habitude, leur propre boisson. Elles sont dosées comme ils en ont l'habitude, avec le produit qu'ils utilisent d'habitude, etc. Ils n'ont pas besoin non plus de les transporter. Et ça fait une très grande différence, en fait, cette histoire-là. Parce qu'en fait, ils peuvent calculer très précisément leur hydratation. On a les images, on voit certains, ça a même d'ailleurs fait des débats sur certaines courses où ils ratent les bouteilles, en faisant tomber les verres des autres et tout. Rappelez-vous ces images du marathon olympique. Mais l'idée vraiment dans tout ça, c'est que en fait, ils ont un avantage qui vient de leur vitesse, qui vient du fait qu'ils visent les records, qu'ils visent des qualifications olympiques, des championnats, etc. Et en fait, ils ont cet avantage-là de dire, ils passent à leur table, ils trouvent leur bidon qu'ils ont repéré, avec lequel ils ont leur propre boisson. Et donc, finalement, quand on écoute leurs conseils, c'est difficile de les appliquer, parce que déjà, ils ont une vitesse qui est très élevée, ils ont des besoins énergétiques propres, ils se connaissent parfaitement bien, et donc ils ont cet avantage logistique. Si vous aussi voulez avoir votre propre boisson d'effort, isotonique ou énergétique, dosée comme vous le souhaitez, il faudra l'emporter. C'est ça le principe, il va falloir l'emporter. Donc ce qui signifie avoir un sac ou alors une ceinture avec des flasques et ou une ceinture porte-bidon. Donc déjà, ça leur ajoute du poids et peut-être de la gêne aussi. Là, ça dépend si vous êtes habitué à courir avec. Exemple, une flasque de 50 centilitres va peser 500 grammes, et donc il faut aussi de quoi la transporter. Alors, moi, je trouve que la ceinture porte-bidon, si vous mettez un bidon d'un demi-litre, comme on peut en trouver dans certains magasins, ce n'est pas confortable du tout, surtout si vous n'en avez pas l'habitude. Pour autant, vous ne pouvez pas ne pas boire sur un marathon. Faire un marathon sans boire, c'est vraiment compliqué. La déshydratation a des conséquences sur la performance, l'endurance, la fatigue, la clarté mentale, les crampes pendant la course, et puis la récupération ensuite. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Puis même à l'extrême, c'est dangereux pour votre santé. Donc, il y a une question, hein, vraiment, à se poser, de savoir comment on fait. D'où tout le stress que ça peut générer chez certains d'entre vous, toutes les questions que ça peut poser. Et il faut le dire, il n'y a pas de réponse globale. Voilà, c'est comme ça, c'est une question personnelle et ça se teste. C'est vrai que déjà, on ne dit jamais assez, mais tout se teste à l'entraînement. Et souvent, on teste en fait ce que l'on mange. On va tester peut-être aussi des fois ce que l'on boit, hein, les différentes boissons. Mais la manière de les transporter se teste aussi. Voilà, et ça, c'est important. Et en fait, il est important de tester une chose pour moi, et dont on parle peut-être pas assez, c'est le temps que vous pouvez courir sans boire quelques gorgées. Et attention, attention, ce n'est pas si simple que ça, parce que bien sûr, ça va varier en fonction de la saison, ça va varier aussi en fonction de l'allure, hein. Voilà, entre une sortie longue que vous allez faire tranquillement, et puis une sortie où vous allez courir plus vite, ça va varier, mais on faut aussi rajouter le côté vraiment important de la météo. Et là, on arrive en ce moment dans les périodes où le temps change. Hein. J'ai vu cette semaine des gens qui se posaient la question du temps, par exemple, pour le marathon de Paris, en s'inquiétant qu'on annonce une vague de chaleur. Alors à Paris, peut-être qu'il fera pas si chaud que ça, mais on sait qu'en plus, entre le départ tôt le matin et puis la fin de matinée, et puis quand on arrive sur le coup de midi, eh ben la température augmente, donc il y a des questions qui sont pas si simples que ça, parce qu'en plus la prépa s'est faite en hiver, hein, et ceux qui ont fait par exemple le marathon de Rome ont pu constater que la différence entre s'entraîner en France quand il faisait de la pluie, quand il faisait plutôt froid, et aller courir dans un climat plutôt printanier à Rome, ben la différence de température, elle n'a pas été facile à gérer. Et c'est vrai que sur le marathon de Paris, par exemple, ça peut arriver. Et sur les marathons qui vont arriver là, ensuite, dans les semaines qui arrivent, ça va aussi se poser comme question. Et puis, alors, je devrais parler de Cheverny, je pourrais parler de Montpellier aussi, où il peut faire très très chaud. Peut-être d'ailleurs que ceux qui seront à Montpellier auront beaucoup plus chaud que ceux qui sont à Paris. Et donc, finalement, on n'a pas trop ces repères. Alors, quand même, il faudrait avoir une petite idée, hein, de se poser la question de dans nos habitudes, dans ce que l'on fait, dans notre expérience, bah combien de temps finalement on arrive à courir sans boire. Et vraiment, pourquoi ce temps sans boire est important? Parce qu'en fait, ça a un impact vraiment sur la stratégie, et notamment de savoir si vous allez profiter uniquement des ravitaillements de la course pour vous ravitailler et donc pour boire, ou si vous allez apporter une solution personnelle avec vous. Sur le marathon de Paris, il y a un ravitaillement tous les 5 km. Bon, un coureur élite, lui, va passer toutes les 15 minutes, bon, à peu près, on va dire les plus rapides. Un coureur en 3 heures va passer toutes les 20 minutes, hein, en moyenne. Un coureur en 3h30 toutes les 25 minutes, un coureur en 4 heures toutes les 30 minutes. Et puis si vous courez en plus de 4 heures, ça peut faire toutes les 45 minutes ou plus encore, hein, plus d'une heure pour certains. Donc ça peut être long. Un coureur rapide, lui, va prendre 2-3 gorgées à chaque ravitaillement. Mais comme il se ravitaille toutes les 15 minutes, hein, toutes les 15 minutes selon les cas, bah ça passe. Un coureur un peu plus lent, lui déjà devrait prendre 5-6 gorgées, parce qu'en fait il va passer moins souvent en ravitaillement, donc il y aura plus de temps entre chaque ravitaillement, donc il a besoin de boire un petit peu plus. Mais il y a aussi le cas, c'est que si vous ratez un ravitaillement, ou que vous ne buvez pas assez, et ben bien sûr le temps va être beaucoup plus long. Et là, il va falloir vous poser la question de savoir si vous pouvez imaginer courir par exemple 1h, 1h30 sans boire. Bah ouais, 1 heure sans boire, c'est par exemple si vous êtes, si vous prévoyez de passer toutes les 30 minutes à un ravitaillement et que vous ratez un ravitaillement, eh ben vous courez 1 heure sans boire. Mais si vous passez toutes les 45 minutes à un ravitaillement et que vous ratez un ravitaillement, eh ben ça fait 1h30 sans boire. Et s'il fait chaud, ça peut être compliqué à gérer. Mais avec la transpiration, avec la vitesse à laquelle vous courez, tout ça, avec aussi le fait de manger, de se ravitailler, de manger des petits trucs, eh ben fait que ça peut être très long. Alors voilà pourquoi il peut être intéressant de prendre avec soi de quoi boire. Et en fait, de trouver comment le transporter. Alors moi je trouve qu'il y a une solution qui est intéressante pour ne pas trop se charger, ça serait de prendre une petite flasque d'eau type 25 centilitres. Vous savez, c'est les flasques qui sont toutes plates une fois qu'elles sont vides. Elles sont toutes molles, donc ça prend pas beaucoup de place. Et elle a l'avantage, la petite flasque d'eau, c'est que déjà on peut la mettre dans une ceinture. On peut aussi la porter dans des gilets d'hydratation, vous savez, les gilets d'hydratation très légers, c'est-à-dire pas ceux, hein, qui ont des grosses réserves d'eau, hein, comme les camelbacks classiques avec les tuyaux et tout, mais vous savez, juste dans les poches de devant, vous pouvez mettre des flasques, bon, vous pouvez mettre des petites flasques, pourquoi pas, par exemple, 25 centilitres d'un côté et puis une petite barre de l'autre, ça peut être le cas, certains vont mettre leur téléphone portable aussi, vous pouvez mettre 2 fois 25 centilitres si vous voulez avoir un peu plus d'eau. Je trouve que c'est plus confortable hein, que le gros sac, d'ailleurs, ça fait moins de bruit. C'est plus confortable aussi que la ceinture avec des bidons. Alors après, chacun a ses habitudes. Hein. Il y en a qui aiment bien les bidons qui portent la ceinture. Moi, je trouve que ça fait un peu mal sur les lombaires au bout d'un moment, enfin, surtout au début. Au fur et à mesure, ça se vide. Et puis, en fait, l'avantage d'avoir une petite flasque aussi, alors ce serait valable aussi avec des bidons, mais l'avantage d'avoir une flasque, c'est que vous pouvez l'ouvrir facilement, la remplir à un ravitaillement, en fait, hein, mettre de l'eau dedans, vous prenez un verre d'eau, vous mettez à l'intérieur de votre flasque et vous pouvez repartir. Un camelback, ça se recharge pas facilement, je le dis très clairement, alors qu'une petite flasque comme ça, mais c'est valable aussi pour un petit bidon, ça se recharge très facilement. Alors oui, le fait de recharger, ça va vous ralentir, ça c'est sûr, mais le gain de temps et de confort sur la course va compenser, parce que vous allez être moins déshydraté, vous allez être plus confortable, vous n'aurez pas la bouche sèche, et donc vous allez courir de manière plus agréable. Et donc le fait d'être plus confortable et de courir de manière plus agréable, et de ne pas se déshydrater, va vous permettre de compenser le fait de perdre du temps sur le ravitaillement. Ça peut aussi vous tranquilliser en cas de raté, en vous disant bah, « je vais me rater ». Et puis, ça peut aussi vous tranquilliser si vous avez peur qu'il y ait trop d'embouteillage, notamment sur le premier ravitaillement. Parce que c'est vrai que même si sur un marathon comme Paris, ça part par vague, vous pouvez vous dire « oulala, premier ravitaillement, il y aura beaucoup de monde, ça va être compliqué et tout, je ne pourrais pas m'arrêter, je ne pourrais pas prendre de l'eau comme je veux, etc. » Donc, ça peut vous tranquilliser vraiment de vous dire « bah voilà, même si je rate un ravitaillement, j'ai de quoi boire. S'il fait chaud, j'ai de quoi boire, je suis tranquille. » C'est la stratégie que j'avais optée pour le marathon de Paris. Alors moi, j'avais pas mis de l'eau dans ma flasque, mais j'ai mis une boisson avec un peu de sucre, du sel, un peu de miel. Ça, c'est à vous de voir, hein, vraiment. Vous pourriez mettre de l'eau et puis vous dire que bah, la partie alimentation se fait plutôt par des trucs type des sticks, des barres, des choses comme ça. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'avais mis ce mélange-là comme ça. Voilà, mais sur des trails, je peux mettre aussi que de l'eau. Mais c'est vrai que j'aime bien, en fait, sur ma flasque, quand je fais ça, j'aime bien avoir mon petit mélange comme ça. Et parce que souvent, en fait, sur les ravitaillements, ce qu'on va trouver, c'est surtout de l'eau. Donc comme ça, en fait, ça permet d'avoir les deux. Je me rappelle aussi que sur un 10 km à Paris, où c'était mis à faire très chaud les quelques jours avant, et notamment la veille, bah justement la veille de la course, j'avais fini dans un magasin de running, acheté une ceinture avec deux petites bouteilles qui étaient toutes petites, et je dois dire que j'avais bien apprécié le jour de la course, parce que même si c'était que 10 km, et que la plupart du temps, faire 10 km, on les fait sans trop boire, ce jour-là, il faisait tellement chaud que j'étais arrivé bien sec à la fin, même en ayant ces petites bouteilles, et la ceinture était tellement légère, les bouteilles tellement légères, que c'était assez pratique, et ils avaient même un truc, vous savez, pour mettre dans la main, là, pour l'attacher dans la main, des fois, même sur des courses, par exemple, à 5 km, je sais que j'avais pris un jour hein, cette petite bouteille dans la main avec une fixation spéciale et que j'avais trouvé que c'était assez pratique, notamment les fois où il fait chaud. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne réponse et que c'est une question qui est très personnelle. Et en fait, vous savez, tout ce qui touche à l'alimentation, c'est intime en fait. Hein. On a chacun nos choix, nos peurs, nos émotions qui vont avec. Donc maintenant, c'est à vous de faire le choix en fonction de ce qui va vous rassurer, de comment vous vous sentez bien dans cette histoire-là. Forcément, si vous regardez les coureurs rapides, ils partent sans rien. Mais eux, ils bénéficient, je le répète, de leur bidon et de temps de passage entre chaque ravito qui sont plus courts. Donc finalement, à chaque fois qu'ils passent au ravitaillement, les coureurs plus rapides, bah, ils peuvent boire un tout petit peu, ça repart. Et puis c'est leur gestion à eux. Mais vous, en fait, bah, il va falloir que vous trouviez votre propre gestion. Alors n'écoutez pas ceux qui se moquent des coureurs avec un sac. Voilà, il y a vraiment une question de ressenti personnel, de confiance aussi hein, dans la solution retenue. Et puis dites-vous aussi qu'il y a une question d'expérience. Et ça, par contre, bah, vous pouvez pas l'anticiper. Moi, j'aime bien une phrase vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ce qui veut dire tout simplement que tant que vous n'avez pas vécu votre premier marathon, vous partez dans l'inconnu. Et c'est valable pour n'importe quelle course. J'ai parlé marathon, on pourrait parler de semi-marathon, 5 km, 10 km, trail ou n'importe quoi. Tant que vous n'avez pas vécu votre première fois, bah vous, il y a plein de choses qui sont inconnues. Et même quand vous l'avez fait une première fois, chaque nouvelle course, finalement, bah c'est une nouvelle partie d'inconnu. Et donc, en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas anticiper. C'est-à-dire vous allez mettre en place des stratégies, un scénario type, et puis bah vous allez voir si ça passe. Votre stratégie ne sera peut-être pas la bonne, mais vous allez apprendre, et puis peut-être que votre stratégie, ce sera la bonne, et vous serez bien content dans ce cas-là. Pour aller plus loin maintenant sur ces histoires de stratégie et aussi de quoi mettre dedans dans les bidons, de comment faire, je vous renvoie sur un ancien épisode qui est l'épisode 66 avec Bruno Obi, qui avait bien expliqué lui en tant qu'entraîneur ce qu'il conseillait aux personnes qu'il entraîne, mais aussi ce qu'il a fait lui en tant qu'athlète. Il expliquait notamment que sur certaines courses, il partait en autonomie complète, c'est-à-dire avec toute son eau et de quoi manger pour être certain d'avoir ce que lui il voulait, de savoir ce qu'il mettait dans les bidons et d'être certain que si jamais il n'y avait pas de ravitaillement ou que le ravitaillement n'était pas comme prévu, il était tranquille. Bah, là aussi, c'est une manière de se tranquilliser avec Bruno Obi, son niveau, hein, qui a été un athlète élite, mais qui donne bien entendu des pistes et il donnait aussi des pistes sur finalement bah, quoi manger, comment manger, les intervalles, etc. Mais là, c'est encore une autre question et qui dépasse bien le cadre de la question de base qui était de savoir s'il faut emporter ou pas un sac d'hydratation avec soi sur une course comme un marathon. J'espère en tout cas que cet épisode plus court, capsule, vous aura donné des pistes, vous aidera à y voir plus clair pour tester un petit peu hein, les solutions hein, que j'ai évoquées, pour tester aussi les solutions que vous auxquelles vous avez pensé quand vous avez commencé à réfléchir à votre marathon. Je vous rappelle l'importance de la préparation, je vous rappelle aussi que c'est votre choix, voilà, c'est votre choix. Peut-être que certaines personnes trouveront que ce choix est étrange, curieux, bizarre, mais en fait, nous courons comme nous sommes, et donc, si vous vous sentez bien avec un sac, et ben courez avec un sac. Voilà, je n'ai que ça à dire. Si ce n'est que je vous souhaite bien sûr une bonne fin de préparation pour ceux qui sont en préparation au marathon ou de n'importe quelle autre course, une belle course pour ceux qui vont courir dans les heures qui viennent et qui se posaient ces dernières questions, et puis bien sûr, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes sur Sport et Nutrition, sur Kilomètre 42, et sur mon compte Instagram, @BertrandSoulier, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, les sujets que vous voulez aborder. Et dans les descriptions de cet épisode aussi, vous trouverez un formulaire, un lien vers un formulaire dans lequel vous pouvez suggérer aussi des questions, des sujets que vous voulez qu'on l'on aborde dans ces épisodes avec les invités que j'aurai aussi au fur et à mesure. Et les questions que vous voulez aussi que j'aborde dans ces formats un peu plus courts, un peu plus capsules. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao mes champions et mes champions.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.